Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 9 août 2024. Israël accepte de discuter d'une trêve alors que les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. La Russie envoie des renforts pour repousser l'incursion ukrainienne. Au Tchad, deux critiques du pouvoir, un militant des droits de l'homme et un journaliste ont été libérés jeudi. La Somalie et l'Éthiopie vont reprendre les négociations sur l'accord portuaire avec le Somaliland sous la médiation de la Turquie. Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football, est mort hier à Paris à l'âge de 78 ans.
On retiendra de lui qu'il a, pour la première fois, permis à l'Afrique d'accueillir la première Coupe du Monde de son histoire. C'était en 2010 et en Afrique du Sud.
Jean-Bruno Tagnier, journaliste, nous parlera de l'héritage sportif d'Issa Hayatou. Ne manquez pas le journal des Jeux Olympiques de Paris. On commence par un bulletin de nouvelles. Israël a accepté de reprendre le 15 août prochain les discussions sur une trêve dans la bande de Gaza où l'armée a lancé aujourd'hui même une nouvelle opération à Khan Younes. Eddy Issangou.
La décision d'Israël de reprendre les discussions a été prise suite à un appel pressant des pays médiateurs face au risque d'escalade militaire généralisée au Moyen-Orient. Londres a annoncé aujourd'hui soutenir totalement l'appel à la reprise immédiate des négociations entre Israël et Hamas lancées par Washington, Doha et le Caire qui assurent la médiation. L'Iran qui soutient les Hamas et d'autres groupes armés dans la région a accusé hier Israël de chercher à étendre la guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Après 10 mois de guerre, l'armée israélienne continue à combattre les Hamas dans les territoires palestiniens, en particulier dans des zones qu'elle avait annoncées contrôler. Des centaines d'habitants ont fui Khan Younes, déjà réduite en ruines par des frappes aériennes. L'armée leur a donné l'ordre d'évacuer et y a engagé des combats pour éliminer des terroristes.
Les combats font rage ce vendredi dans la région russe de Koursk, où l'armée ukrainienne a lancé une offensive d'ampleur il y a 3 jours et menée dans la nuit des attaques de drones qui ont également visé d'autres régions du pays. Les précisions de John Lindon.
Plus de 1000 soldats ukrainiens avec une dizaine de chars et une vingtaine de blindés ont pénétré mardi dans la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine, selon l'état-major russe qui dit tout faire pour les repousser. Les forces ukrainiennes se sont, selon des analystes, enfoncées sur plusieurs dizaines de kilomètres dans le territoire russe. Pour le 4e jour consécutif, les combats s'y poursuivent ce vendredi, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué assurant mettre en échec les attaques ukrainiennes. Cité par les agences de presse russes, le ministère a aussi affirmé envoyer davantage de matériel, notamment des lance-roquettes multiples, des pièces d'artillerie et des chars pour contrer l'incursion ukrainienne. Le ministère a confirmé que les troupes de Kiev avaient atteint la ville russe de Soudja à une dizaine de kilomètres de la frontière. Soudja abrite un nœud de transit pour le gaz, fournissant toujours l'Europe via l'Ukraine.
Un séisme de magnitude 5,3 est survenu ce vendredi dans la région de Tokyo et alentour, notamment dans la préfecture de Kanagawa, au sud-ouest de la capitale japonaise. La secousse a ébranlé des immeubles à Tokyo. Le trafic du métro a été brièvement interrompu et a ensuite repris normalement. Une secousse de magnitude 7,1 avait déjà été enregistrée hier jeudi dans le sud-ouest de l'archipel nippon sur l'île de Kyushu.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, le gouvernement centrafricain a appelé les chefs rebelles à revenir dans le processus global de paix après les velléités de dialogue et de cessation des hostilités exprimées récemment par Ali Darassa, chef d'état-major de la CPC, l'un des plus puissants d'entre eux. Bangui demande à M. Darassa de désigner officiellement ses représentants pour les prochaines étapes du processus et de recenser les effectifs et les moyens militaires à sa disposition afin de les désarmer et les démobiliser. L'ancien président de la Centrafrique, François Bozizé, chef de la CPC exilé en Guinée-Bissau, avait réagi en révoquant son chef d'état-major pour indiscipline notoire, insoumission à l'instance politique de la coalition. Nouvelle libération au Tchad, Baradine Berdei Targio, président de l'Organisation tchadienne des droits humains et virulent pourfendeur des régimes des présidents Déby, père et fils, vient d'être libéré après 5 mois de détention par les services de renseignement. Une information communiquée par sa famille aujourd'hui, Jacques Aristide.
Hamid Berdei Targouillo indique que son frère Baradine a été libéré à minuit, puis déposé chez lui par les agents de la NSE, le tout-puissant service du renseignement au Tchad. Sa détention était intervenue quelques jours après le décès de Yaya Diallo, principal rival du chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, dans l'assaut par l'armée du siège de son parti. Mort violente de Yaya Diallo survenue en juillet dernier à 2 mois de la présidentielle et qualifiée par l'opposition d'assassinat fomenté pour l'évincer du scrutin. Baradine Berdei Targouillo a déjà été gracié à 2 reprises par le général Mahamat Déby. D'abord en 2021, après 1 an et demi en prison sous Déby père pour atteinte à l'ordre constitutionnel. Ensuite en juin 2023, après avoir été accusé par la junte de tentative de coup d'État et condamné à 20 ans de prison. La libération du militant intervient après celle de Badour Oumar Ali, rédacteur en chef de tchadinfo.com, au terme de 24 heures de détention. Toujours par la NSE.
La junte au Mali a ordonné aujourd'hui à l'ambassadrice de Suède de quitter son territoire sous 72 heures à la suite d'une déclaration d'un ministre suédois sur le soutien du Mali à la Russie, a annoncé le ministère malien des Affaires étrangères. Le gouvernement suédois avait annoncé préalablement la fermeture de son ambassade à Bamako d'ici la fin de l'année 2024 et annoncé l'ouverture d'une nouvelle ambassade à Dakar au Sénégal en 2025. Les ministres des Affaires étrangères de la Somalie et de l'Éthiopie se réuniront à Ankara la semaine prochaine pour discuter de l'accord portuaire qu'Addis Abeba a signé avec la région séparatiste du Somaliland au début de l'année. La Turquie joue actuellement le rôle de médiateur entre les deux voisins d'Afrique de l'Est. Alexandrine Ollognon.
L'annonce du ministre turc des Affaires étrangères à Kanfidan intervient une semaine après sa visite à Addis Abeba, où il a rencontré le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. D'après le ministre turc, les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie prendraient fin avec l'accès de l'Éthiopie à la mer via la Somalie, à condition que l'Éthiopie reconnaisse l'intégrité territoriale et la souveraineté politique de la Somalie. Les relations entre les deux pays se sont tendues en janvier lorsque l'Éthiopie a accepté de louer 20 km de côte au Somaliland en échange de la reconnaissance de son indépendance. Mogadiscio a qualifié l'accord d'illégal et a riposté en expulsant l'ambassadeur éthiopien et en menaçant d'expulser les milliers de soldats éthiopiens stationnés dans le pays pour aider à combattre les insurgés islamistes. Sous l'égide de la Turquie, les ministres des Affaires étrangères somaliens et éthiopiens se sont rencontrés à Ankara le mois dernier pour discuter de leurs désaccords et ont convenu d'organiser un nouveau cycle de négociations.
En Ouganda, 47 étudiants ont été arrêtés ce vendredi alors qu'ils marchaient en direction du Parlement pour y remettre une pétition contre un méga-projet pétrolier de Total Energy. Le projet est dénoncé par des organisations de protection de l'environnement qui estiment qu'il menace le fragile écosystème de la région et des populations qui y vivent. Le président ougandais Yoweri Museveni, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1986, a décrit à plusieurs reprises le projet comme une source économique majeure dans ce pays enclavé. Une délégation soudanaise est arrivée à Jeddah ce vendredi pour discuter avec les médiateurs américains des conditions de la participation du gouvernement soudanais au pourparlers de cessez-le-feu prévu à Genève le 14 août. Si les paramilitaires des forces de soutien rapide ont rapidement accepté l'invitation, le ministère des Affaires étrangères loyal à l'armée avait alors affirmé vouloir davantage de discussions avant d'y répondre. Voilà pour le journal. À présent, le journal des Jeux Olympiques avec Yacouba Ouédraogo.
Bienvenue dans ce journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Le Burkina Faso et l'Afrique retiennent leur souffle pour ce qui est de la compétition du saut en longueur. Tout à l'heure, le Burkinabé, champion du monde en titre et recordman de la discipline en salle, Hugues Fabrice Zango est en lice pour la finale. Il avait décroché la médaille de bronze lors des JO de Tokyo, la première médaille olympique de son pays. Pour le directeur technique national de la Fédération Burkinabé d'athlétisme, Zango est prêt pour l'or.
L'or burkinabé, pour lequel il s'était poussé, et je crois qu'il a travaillé d'arrache-pied. Il a eu tout ce qu'il faut pour se préparer au point de vue de la santé, au point de vue de l'accompagnement technique. Bon, même si je sais que c'est toujours un concours, c'est toujours une compétition, tout le monde vient pour gagner et que c'est un ou deux, trois qui peuvent gagner. Mais je pense que la forme qu'il aspire pour le moment lui permet d'avoir la médaille d'or.
À Tokyo, il était aussi confiant que cette année, mais finalement, il a dû se contenter d'une médaille de bronze. Qu'est-ce qui fait la différence justement cette année pour Hugues Fabrice Zango?
Tokyo, c'était sa première fois d'être aux Olympiques avec l'espoir d'avoir une médaille. Cette fois-ci, ça fait la deuxième fois. Tous les meilleurs les ont rencontrés, se sont rencontrés plusieurs fois. Tout le monde connaît le niveau de chacun. Il a beaucoup grandi en maturité, il a beaucoup grandi dans sa façon de sauter, il a beaucoup mûri dans tout ce qu'il prépare comme performance cette échéance-là. Donc, ce qui fait que entre cette année et Tokyo en 2021, il y a une très grande différence à tous les points de vue. Mental, au point de vue technique, au point de vue motivation, et parce que quelqu'un qui a été champion du monde en salle, champion du monde en plein air, qu'est-ce qu'il lui manque? Il n'y a que la médaille d'or au niveau olympique.
Missiri Sawadogo, directeur technique national de la Fédération Burkinabé d'athlétisme, joint à Paris. En taekwondo, l'autre Burkinabé, Faisal Sawadogo, rejoint les quarts de finale des moins de 80 kilos après avoir battu le Serbe Stefan Takov. Ça ne passe pas par contre pour le Malien Ismaël Koulibaly qui s'est incliné face au Kazakh Bartikan Touléogali chez les moins de 80 kilos. Victoire du Tunisien Firas Katoussi face au Danois Eddy Hernik. Chez les dames, l'Ivoirienne Ruth Gbagbi, médaillée de bronze à Tokyo, a perdu devant la Hongroise Viviana Marton. Chez les moins de 67 kilos, mais dispute une compétition de repêchage. Défaite également pour la Nigériane Elisabeth Olushi, Anya Nakcho, face à la Chinoise Shansong Jie, dans la même catégorie. Autre athlète attendu, Iman Khelif. L'ambiance promet d'être bouillante à Roland-Garros pour la finale de boxe féminine des moins de 66 kilos. Avec l'Algérienne soutenue à chaque combat par des milliers de fans, la boxeuse de 25 ans s'est retrouvée malgré elle au centre d'une polémique mondiale sur son genre qui lui a valu des attaques violentes mais aussi le soutien inconditionnel de l'Algérie. Elle affronte en finale la Chinoise Yang Liu. Ses nombreux fans se disent confiants.
Avec toute la controverse, etc., on espère vraiment que ça n'a pas trop influencé sur son moral et qu'elle va gagner aujourd'hui.
Je suis là en tant que femme, en tant qu'Algérienne et en tant que défendrice des droits humains.
On sait que c'est une sportive et qu'elle va honorer tout le pays algérien et bien sûr tous les supporters qui sont venus en masse pour la supporter en fait.
Demain, le double champion Eliud Kipchoge se dit prêt à entrer dans l'histoire en devenant le premier homme à remporter 3 médailles d'or olympiques sur le marathon. L'ancien détenteur du record du monde du marathon, âgé de 39 ans, va écrire un nouveau chapitre de sa carrière de coureur sans précédent en devenant le premier et seul Kenyan à participer à 5 Jeux olympiques.
Je pense que mes coéquipiers sont très bons. Ce sont des athlètes de grande classe, énergétiques et disciplinés. Je suis persuadé que nous ferons une bonne compétition et que nous monterons sur le podium.
Eliud Kipchoge, marathonnier kenyan, 2 fois médaillé olympique. Lui découvre le marathon au JO, mais va tenter de hisser le plus haut possible le drapeau de son pays. Il s'agit du coureur tchadien Valentin Betoudji, premier marathonien tchadien qualifié pour les Jeux Olympiques.
Le marathon sera très difficile dans tous les Jeux Olympiques. Tout est donc possible dans ce marathon. La bonne chose, c'est la préparation. Si vous avez une bonne préparation, alors le reste sera facile. Mes deux préparations ont été bonnes pendant 6 semaines. Maintenant, je me sens très à l'aise et j'ai hâte de commencer le marathon samedi.
Valentin Bentoudji, coureur tchadien. Voilà, c'est tout pour ce journal des JO de ce vendredi 9 août.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires ont lancé une nouvelle phase du mécanisme de stabilisation régionale pour le bassin du lac Tchad, couvrant la période 2024-2028 et visant à renforcer la stabilité, l'inclusion et la résilience des communautés dans la région. Pour en parler, Eric Manirakiza, adjoint à Dakar, Njoya Tikoum, directeur du hub sous-régional du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Cette deuxième phase que nous venons de lancer vise d'abord à consolider tous les acquis que nous avons eus pendant la première phase. Deuxièmement, ça vise aussi à promouvoir en temps réel l'appropriation de ce programme par la population, mais aussi par le gouvernement. On a vu que dès la première phase, quand nous avons lancé un processus, on avait encore les populations déplacées. Mais pour le moment, on a assez de gens qui sont rentrés dans les villes sécurisées et stabilisées. Et maintenant, il faut les inclure pour l'appropriation de ce programme et aussi le gouvernement. Troisièmement, il faut aussi renforcer maintenant la collaboration entre les États de la sous-région, donc les aspects transfrontaliers de ce programme. Et quatrièmement, c'est pour élargir l'étendue de cette facilité. Nous avons commencé avec 16 sites choisis par les États membres. Nous voudrons aller maintenant au-delà de 16 pour avoir au minimum 27 sites dans les 4 pays choisis par les gouvernements aussi dans cette deuxième phase et toucher beaucoup plus déjà.
Et quels sont les principaux défis auxquels le programme est confronté dans la région et comment le programme prévoit-il de surmonter ces défis pour atteindre ces objectifs?
Bon, comme tous les programmes, je pense qu'on a plusieurs défis, pour la vérité. La première chose, c'est les crises se multiplient chaque jour dans la sous-région. Nous avons vu ce qui s'est passé au Soudan et comment on a eu un masse flux des réfugiés qui sont venus du côté du Tchad, un pays qui souffre déjà et a trouvé les solutions pour ses propres défis du développement. Donc, le fait qu'il y a les crises qui se multiplient dans la zone, les crises parfois créées par les changements climatiques, pas nécessairement par les conflits, mais aussi les conflits. Et donc, le fait qu'on a cette crise qui continue nous dit qu'on a toujours une région très fragile. Deuxième défi, c'est aussi de faire, comme ce que j'ai dit auparavant, de faire à ce que la population vraiment s'approprie de cette initiative et qu'il continue avec. Parce que le but, c'est si on stabilise une zone, l'impression ou bien l'intention, c'est que cette zone stabilisée puisse trouver une possibilité de faire circuler la paix au-delà de la zone stabilisée. Mais pour que ceci arrive, c'est vraiment la population de base. Et aussi, on a les défis financiers, bien sûr.
Quelles sont les perspectives à long terme pour assurer la stabilité et la durabilité des efforts de stabilisation au-delà de cette phase en 2028.
Cette région du bassin du lac Tchad continue à être une région extrêmement instable. Donc, nous demandons qu'il y ait un focus, qu'il y ait une pression qui est mise sur les partenaires aussi internationaux à pouvoir continuer à appuyer les initiatives déjà localement. D'ailleurs, tous les 4 pays dans le bassin du lac Tchad mettent déjà les propres ressources dans ce processus, dans ce projet, soit financièrement, soit techniquement, et ils mettent les propres ressources. Si nous stabilisons une région, c'est l'État qui envoie les militaires, les policiers, les infirmiers, les enseignants pour aller un peu travailler dans la zone et utiliser les infrastructures qui sont construites par la facilité. Donc l'État contribue déjà beaucoup, mais pour que ça soit durable, ça doit être un projet ou un programme, une approche internalisée par les États et appuyée par la communauté internationale.
Njoya Tikoum, directeur du hub sous-régional du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Un géant du continent est tombé. L'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, est mort hier à Paris à 78 ans. Avant son mandat à la CAF, il a dirigé la Fédération camerounaise de football, puis est devenu, après, membre du conseil exécutif de la FIFA et du Comité international olympique. Que retenir de sa gestion du football africain? Yacouba Ouédraogo, adjoint à Gatineau, au Canada. Jean-Bruno Tagné, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur le football, dont « Programmé pour échouer », »,« La tragédie des lions indomptables » et « L'anarque ».
C'est sous Issa Hayatou que l'Afrique a été un peu respectée sur la planète du football. On retiendra de lui qu'il a, pour la première fois, permis à l'Afrique d'accueillir la première Coupe du Monde de son histoire. C'était en 2010 et en Afrique du Sud. Et ce fut une très, très belle compétition malgré tout ce qui avait été dit par les afro-pessimistes de par le monde qui pensaient que l'Afrique ne pouvait pas accueillir une compétition de cette envergure. On retiendra également de Issa Hayatou que c'est lui qui a créé le championnat d'Afrique des Nations, qui est une espèce de Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs évoluant sur le continent local. Issa Hayatou a également développé le football des jeunes à travers la création de la Coupe d'Afrique des Nations pour les 20 ans, pour les 17 ans et pour les 23 ans. Et le plus important, me semble-t-il, en ce qui concerne Issa Hayatou, c'est qu'il a imposé contre le gré de la FIFA et du monde du football que la Coupe d'Afrique des Nations se joue en janvier et février. Et lui, son argument, c'était que un peu partout sur le continent africain, les mois de janvier et février sont ceux où il pleut le moins ou alors pas du tout.
D'aucuns disent que l'après Hayatou à la CAF est en deçà par rapport à tout ce que l'homme a fait.
C'est une opinion qu'on peut partager. Si on veut s'appuyer simplement sur le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations, on peut dire qu'on assiste progressivement à la mort du football africain sur ce mois-là. Or, depuis qu'il est parti, que ce soit avec son tombeur Amat, le Malgache, ou alors avec l'actuel Motsepe, ils sont pratiquement à la botte de la FIFA. Il faut également dire que sous Issa Hayatou, il y a eu une gestion à peu près normale des finances, même si lui-même, et ça c'est la note triste de son passage à la FIFA, lui-même a été épinglé pour des affaires de corruption, mais il n'en demeure pas moins que les finances de la CAF se portaient assez bien.
On entend aussi souvent des Camerounais ne pas apprécier ou ne pas assez connaître Issa Hayatou. Qu'est-ce qu'il a apporté au Cameroun?
Plusieurs générations de Camerounais n'ont connu Issa Hayatou que comme président de la Confédération africaine de football et très peu se souviennent même qu'il a été président de la Fédération camerounaise de football. C'est pour cela qu'on peut avoir le sentiment qu'il n'est pas très connu ou alors qu'il n'est pas très très apprécié au Cameroun, ce qui est absolument faux. Issa Hayatou a joué de son influence que le Cameroun accueille la Coupe d'Afrique des Nations de 2021 qui s'est jouée en 2022. Au moment où il attribue l'organisation de la compétition au Cameroun, il faut dire que sur le papier, le Cameroun n'a pas le meilleur dossier, loin s'en faut. Et le Cameroun lui sera éternellement reconnaissant.
Jean-Bruno Tagné, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur le football. Ici aux États-Unis, les républicains du Congrès sont largement en phase avec le candidat à la présidence Donald Trump sur un certain nombre de questions clés de politique étrangère, y compris le soutien des États-Unis à Israël. Mais comme le rapporte Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, les législateurs ne s'accordent pas sur des sujets comme la Chine, la politique tarifaire et l'aide à l'Ukraine, ce qui pourrait compliquer un second mandat de M. Trump en cas de victoire en novembre.
L'ancien président Donald Trump a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le mois dernier.
Aucun président n'a fait ce que j'ai fait pour Israël. Nous avons toujours eu de très bonnes relations.
Trump a déjà critiqué Netanyahou pour les défaillances en matière de sécurité qui, selon lui, ont permis l'attaque du Hamas le 7 octobre. L'imprévisibilité a caractérisé la politique étrangère de M. Trump lorsqu'il était au pouvoir. Un analyste a déclaré à la VOA que le programme de politique étrangère du Parti républicain pour 2024 en est le reflet. Chris Tatter est chercheur principal au Council on Foreign Relations.
There are not a ton of specifics.
Il n'y a pas beaucoup de détails, ce qui lui donne l'avantage de pouvoir façonner une politique comme il le souhaite à l'instant, plutôt que de s'enfermer dans des politiques dès le début d'un mandat.
Les collègues républicains de Donald Trump affirment que l'application de médias sociaux TikTok est contrôlée par le gouvernement chinois et peut être utilisée pour accéder aux informations des utilisateurs et influencer les opinions publiques. Mitt Romney est sénateur républicain.
Je ne veux pas que le Parti communiste chinois obtienne des données personnelles sur nos citoyens et qu'il puisse utiliser des algorithmes pour propager de la propagande auprès du public américain.
Mais Trump est revenu sur sa décision d'interdire TikTok cette année.
Nous allons sauver TikTok. Ils veulent détruire TikTok. Alors tous les gens sur TikTok, votez pour Trump.
Monsieur Trump a également critiqué l'OTAN, affirmant que les pays membres ne payaient pas leur juste part pour la défense commune. Son colistier, le candidat à la vice-présidence J.D. Vance, s'est montré encore plus critique à l'égard de l'aide financière des États-Unis à l'Ukraine.
But let's not mistake. Ne confondons pas le courage des troupes ukrainiennes sur le terrain avec le fait qu'elles ont les dirigeants et le gouvernement les plus corrompus d'Europe et peut-être les plus corrompus du monde.
Le leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a lui soutenu que l'aide à l'Ukraine est essentielle pour défendre la démocratie en Europe.
Ce n'est même plus une question de savoir si l'Amérique répondra à une agression par une force écrasante ou même si elle soutiendra nos alliés à 100%.
Les analystes estiment que les appels de Trump à augmenter les droits de douane s'il est élu pour un second mandat pourraient être la plus grande source de conflits avec les législateurs républicains. Gordon Gray est ancien ambassadeur des États-Unis, est aujourd'hui professeur à l'université George Washington.
Cela montre la transformation du Parti républicain depuis 2016, car les républicains ont historiquement été des partisans du libre-échange.
Trump s'est engagé à introduire des tarifs douaniers d'au moins 60% sur la Chine et de 10% sur les importations en provenance d'autres pays s'il est réélu.
Ce reportage était relaté par Eric Manirakiza. Les constructeurs d'avions à basse altitude, les eVTOL, ou véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux, affirment qu'ils vont révolutionner le transport en ville en proposant des déplacements rapides et respectueux de l'environnement. Plusieurs entreprises ont présenté leur concept au Salon aéronautique international de Farnborough 2024 en Grande-Bretagne. Les détails avec Nathalie Barge.
Supernaul, une entreprise de mobilité aérienne du géant Hyundai, affirme que son concept de e-taxi électrique est une révolution technologique. Il est doté de rotors qui permettront des décollages et atterrissages verticaux comme le font les hélicoptères. Jai Wenshin, président du groupe Hyundai Motor et PDG de Supernaul, vise la production industrielle de masse du eVTOL.
Nous disposons non seulement de la puissance industrielle que Hyundai Motor Group peut offrir, nous pouvons également révolutionner l'aviation grâce aux grandes capacités de HMG et vraiment la concrétiser au-delà du film de science-fiction.
Les constructeurs font valoir que les trajets en taxi du futur seront ultra rapides en volant directement d'un point à l'autre tout en évitant le trafic routier. Le eVTOL de Lilium se démarque de la concurrence selon la compagnie allemande dirigée par Klaus Rowe, estimant qu'il se distingue par le fait qu'il n'est pas entraîné par des rotors.
Il est propulsé par un ventilateur, vole sur batterie, a une envergure de 14 mètres, mesure 8 mètres de long et pèse 3,3 tonnes. Il peut transporter 6 personnes sur 175 km à une vitesse de 250 km par heure et son coût d'exploitation est si faible que vous pouvez proposer un prix de billet inférieur à 2 dollars de kilomètre.
Lilium affirme que son eVTOL fonctionnera avec zéro émission et un bruit minimal. Richard Aboulafia, analyste de l'aviation, estime que la possibilité de voir ces avions opérer à grande échelle dans nos cieux est encore loin devant nous.
Ils sont très populaires du point de vue du design, du concept, mais en termes de production et de fabrication en grande quantité, cela prendra de nombreuses années, voire même jamais. C'est une de ces choses dont les gens aiment parler, mais il y a peu d'activité commerciale autour de ça.
Pour que de tels véhicules opèrent, il faudra définir des zones spéciales pour leur atterrissage et décollage, ainsi que leur parcours. L'intention de désengorger le trafic terrestre et de réduire l'impact environnemental est manifeste. Et les experts sont à pied d'œuvre pour anticiper sur les changements potentiels de la prochaine révolution du transport, qui demandera de nombreuses réglementations pour opérer en toute sécurité et ne pas saturer l'espace aérien à très basse altitude.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous en compagnie des programmes de VOA Afrique.